Retrouvez tout de suite une émission spéciale en direct de Jérusalem. L'invité de Patrick Cohen est Uri Schneider, résident israélien, qui nous parle de son quotidien depuis le 7 octobre.
Uri Schneider, bonsoir. Vous êtes ancien Strasbourgeois, installé depuis de nombreuses années à Jérusalem, en Israël. Vous y êtes depuis combien de temps ?
Je suis arrivé à Jérusalem en 94.
Ah oui, donc ça fait quasiment 20-30 ans, hein, c'est ça ? Une trentaine d'années ?
En 90, je suis arrivé en Israël, mais à Jérusalem en 94.
Ok. Ce que l'on vit aujourd'hui en Israël, c'est assez, c'est entre guillemets assez unique. On n'a jamais vécu une période aussi compliquée.
Je vais m'enlever les guillemets, hein, c'est vraiment très unique. C'est une catastrophe pour Israël, c'est une catastrophe pour le peuple juif. C'est la première fois depuis environ 80 ans que Shabbat, il y a eu autant de morts juifs civils sur cette terre.
Alors, comment vous êtes impacté ? Vous avez, je crois, une grande famille. Comment ça s'organise chez vous ? Comment l'organisation familiale, j'imagine, a été bousculée ? Vos enfants, vous en avez combien ? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui ?
J'ai la chance d'avoir 8 enfants. Le plus petit a 7 ans et demi. Le plus grand a 23 ans. Il est marié. Il était chez nous pour Shabbat. Alors, faut savoir qu'en Israël, donc, on fait qu'un seul jour de fête, donc c'était en même temps Shabbat, Simchat Torah et Shmini Atzeret. Le matin, on a commencé la tefila à 8h du matin, comme la prière est assez longue à Simchat Torah. 8h15, on a eu la première sirène à Jérusalem. On est rentré dans les abris. Mon fils qui est à l'armée, donc mon fils aîné, comme tous ceux qui sont à l'armée. Même si c'est Shabbat, ils ont en général l'ordre d'avoir un téléphone sur eux. Et vers 9h à peu près, les premiers jeunes de la synagogue ont commencé à recevoir des coups de téléphone pendant Shabbat. Les autres ont continué.
Qu'est-ce qu'ils se disaient à ce moment-là ? Quelles étaient les informations qu'avaient ces premiers jeunes qui ont été mobilisés ?
Alors, les informations qu'on a eues, ce n'était pas par les jeunes. Les informations qu'on a eues, c'est par ceux qui sont arrivés un petit peu en retard à la synagogue Shabbat matin. Parce qu'ils ont eu les sirènes quand ils étaient encore chez eux. Ils sont descendus dans les abris quand ils étaient encore chez eux. Alors, nous, en tant que religieux, on n'a pas les informations, on n'a pas la radio, on n'a rien du tout. Mais quand eux se sont retrouvés dans les abris avec leurs voisins qui ne sont pas religieux, ils ont commencé à entendre des informations. Et quand ils sont arrivés à la synagogue, c'est eux qui nous ont apporté les premières informations.
Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit au départ ? Quelles étaient les informations qui circulaient au départ ?
Ces informations, c'est ce qu'il y avait à la télé, ce qu'il y avait à la radio, c'est ce qu'ils entendaient. C'est-à-dire que il y avait une incursion de terroristes par les airs et que le Marsom Erez, qui est la frontière entre Israël et la bande de Gaza, a été entièrement dévasté, qu'ils ont tué tout le monde, qu'il y a des scènes d'horreur, on se voit en Afghanistan, où les terroristes se promènent dans les rues sur des voitures armées jusqu'aux dents, qui vont dans les maisons, qui tirent sur tout le monde, qui brûlent tout ce qu'il y a. Enfin, malheureusement, la vérité, malheureusement, ce qu'on a réussi à découvrir après qui était vrai, c'est les premières bribes d'informations. Maintenant, quand on vit dans la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, où tous les jours on a des informations tout le temps, n'importe quelle minute, n'importe quelle heure, que ce soit à la radio, à la télé, surtout avec nos téléphones portables, et qu'on se retrouve un jour de Shabbat comme personne religieuse, sans téléphone, sans radio, sans télé, recevoir des bribes d'informations comme ça, c'est très handicapant et c'est assez compliqué à vivre. Donc on essaie d'avoir des informations d'un peu partout. Et puis, on a compris que tout était vrai quand les téléphones de ces gosses ont commencé, enfin de ces gosses, de ces jeunes ont commencé à sonner. On voyait qu'ils sortaient de la synagogue et qu'ils commençaient à parler et que chacun racontait qu'il devait se préparer, etc.
Donc, vous avez un de vos enfants, celui de 23 ans, du coup, qui a été mobilisé, c'est ça ?
Ah ouais, Shabbat matin, à 10h, à la synagogue, il est parti. Il m'a dit, je viens d'avoir un coup de fil, il faut que je parte. Il est parti. Alors comme il est à l'armée de toute façon, il est militaire de carrière, il est officier, il était sorti pour Shabbat avec une voiture de l'armée, donc il n'a pas eu de problème lui pour repartir, il avait la voiture de l'armée avec laquelle il a pu repartir. On a un autre, d'autres copains qui avaient leur fils, ils lui ont laissé sa voiture pour qu'il puisse partir. Puis tout d'un coup, on a le fils d'un autre qui est arrivé, qui est venu dire au revoir à ses parents parce qu'il venait d'être appelé. Puis le deuxième aussi, enfin un autre, il est venu nous dire
ouais,
au revoir à
son père. Les uns derrière les autres.
Et tous, alors il y en a qui étaient affectés au sud, d'autres qui sont affectés au nord, etc. Ils ont tous été appelés.
Vous imaginez un jour que ça se passerait comme ça, cette frontière de Gaza que tout le monde pensait complètement close, fermée, impossible à traverser? Vous aviez imaginé que ça soit possible?
Non. J'ai jamais imaginé que ça serait possible. Et c'est pour ça que, en tant que juif croyant, j'y vois la main de Dieu, dans le sens où on a les systèmes les plus sophistiqués au monde à cette frontière. Il y a des systèmes qui n'ont même pas besoin d'intervention humaine pour réagir, puisqu'il y a des caméras extraordinaires. Je ne suis pas dans ce domaine-là, mais il y a des systèmes qui arrivent à détecter des présences, qui arrivent à détecter des mouvements, et qui peuvent donner des ordres de tirer tout seul sans avoir besoin d'un ordre humain. Et pourtant, il y a eu un problème, il n'y a rien à fonctionner. Ils ont réussi à passer. Quand on voit ce qui s'est passé justement dans la base du Marsan-Merez, à la frontière, qu'ils ont réussi à...
C'est la base militaire qui a été attaquée, hein, c'est ça?
Ouais, la base militaire, une des bases militaires qui a été attaquée, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été attaquées, mais celle du Marsan-Merez, celle qui est vraiment à la frontière, à Erez. On voit comment est-ce que les militaires se sont fait tuer dans leur lit. Ils sont entrés.
Alors justement, ça questionne beaucoup en France ici. On parle beaucoup de l'échec des services de renseignement. Ça, c'est une première chose. Et on a aussi un sentiment un peu d'impréparation, finalement, de l'armée. On a vu des images des chars qui étaient le long de ces grands murs d'enceinte, qu'on sortait manu militari de leurs chars pour certains les tabasser, d'autres les exécuter sur le moment. Beaucoup de questions. On se demande comment est-ce que c'est possible, pourquoi sortir de son char. On a l'impression, finalement, comme on a coutume de dire en Israël, d'un balagan général au niveau de l'armée, et que finalement tout le monde s'est fait prendre par surprise, et on avait le sentiment d'une armée qui était absolument impossible à déstabiliser. Et là, on a vraiment le sentiment que ça a été assez simple, finalement, pour l'ensemble de ces terroristes de faire ces incursions dans le sud, de traverser, de rentrer dans les kibboutz.
Je propose qu'on reprenne cette discussion quand la guerre sera finie, qu'on essaye de voir quels ont été les problèmes et qu'on essaye de voir quels sont les responsables, etc. Je pense que pour l'instant, l'heure n'est pas là.
C'est pas le temps des enquêtes.
Pour l'instant, chaque chose en son temps.
Pardon ?
Chaque chose en son temps. On verra d'abord.
Je pense qu'il faut que c'est une question, enfin des questions. Nous tous, on se la pose. Il n'y a pas que vous en France, nous en Israël, on se posait la même question. Mais ce n'était pas le bon moment pour chercher.
Alors, c'est quoi le temps aujourd'hui? C'est le temps de quoi, dites-moi?
C'est le temps de faire cette guerre, parce que pour l'instant, elle ne fait que commencer, si toutefois elle a commencé, puisque l'armée de terre n'est pas encore intervenue. Dans tout ça, pour l'instant, c'est que l'armée de l'air qui tire sur la bande de Gaza. L'armée de terre se prépare et prête. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de militaires qui ont été, enfin des centaines, puisqu'on parle de 360 000 militaires qui ont été mobilisés en plus de l'armée, les réservistes. Certains s'entraînent, certains sont prêts, beaucoup attendent de recevoir l'ordre de rentrer dans la bande de Gaza. Alors effectivement, c'est les militaires qui savent comment est-ce qu'on rentre et qui c'est qui doit rentrer, quelle unité doit faire quoi, enfin chacun aura son objectif, etc. Et ils connaissent le terrain. Mais
théorie du coup à l'arrière, comment s'organise la vie aujourd'hui à Jérusalem? Qu'est-ce qui a changé pour les habitants? C'est quoi votre quotidien aujourd'hui?
Eh ben, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On va commencer par même par les enfants. Les écoles sont fermées. Les écoles auraient dû ouvrir dimanche, le lendemain de Sukkot, puisque comme j'ai dit, nous on n'a qu'un jour de fête, donc le lendemain de Simchat Torah. Les écoles devaient ouvrir, les écoles sont restées fermées. Les écoles sont toujours fermées. On a reçu une information là il y a 3 heures à peu près, 4 heures, ouais, 3-4 heures, pour nous dire que les cours allaient reprendre à partir de dimanche, mais comme pendant la corona, à distance. C'est-à-dire que les écoles allaient rester fermées. Donc les cours
dans les écoles. La consigne, c'est rester chez vous pour le moment, c'est ça, hein, je crois.
La consigne, c'est pas obligatoirement de rester chez nous, mais c'est d'éviter les rassemblements. Et on n'a aucune consigne qui nous interdit de sortir. On a des consignes qui nous interdisent de nous rassembler à plus d'un certain nombre de personnes suivant le lieu géographique où on est. On a un tableau comme ça avec 3-4 lieux géographiques, 3-4 zones dans le pays. En fonction de la zone dans laquelle on se trouve, on peut 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes à l'intérieur, à l'extérieur, 1000 personnes. Enfin, on a des consignes comme ça. Donc, c'est pour ça, je suppose, que les écoles ne nous voient pas. Donc, ça, c'est une première des choses qu'on ressent quand on est à l'arrière. Une autre chose qu'on ressent quand on est à l'arrière, ben, il y a beaucoup moins de monde dans les rues, il y a moins de circulation, il y a beaucoup de magasins qui sont fermés, et les magasins qui sont ouverts, ils sont vides. Quand on va dans les magasins, il manque du personnel. Et alors à Jérusalem, c'est pas spécifique, mais ça se passe plus à Jérusalem que dans d'autres endroits dans le pays, c'est qu'il y a beaucoup d'employés dans les magasins qui sont des Arabes, des Arabes israéliens souvent. Eux, ils sont évidemment, ils sont pas mobilisés, ils ont rien à réclamer. Mais eux ne sortent pas de chez eux non plus, ils ont peur. Ils ont peur de se faire attaquer dans la rue, dans leur voiture, dans un magasin, etc. Donc, il y a effectivement beaucoup moins de monde un peu partout, dans les zones commerciales, dans les canyonimes, dans la rue, sur la route, etc.
L'économie est figée, mais les entreprises, elles fonctionnent au ralenti, elles ne fonctionnent pas du tout. Ça se passe comment au niveau de l'activité? Parce que c'est une guerre qui risque de s'inscrire dans la durée. Donc, comment ça va s'articuler tout ça, en fait?
C'est encore un peu frais, mais effectivement, on voit que tout est au ralenti. Comment est-ce que ça va se passer dans la suite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra voir quels sont les besoins, parce qu'il y aura beaucoup moins de besoins pour la population civile. Mais effectivement, moi, je suis travailleur indépendant. J'ai parlé avec un autre copain qui est indépendant, etc. On est tous conscients que l'activité économique, elle va ralentir, qu'il y aura moins d'affaires qui vont se faire, etc. C'est comme ça, on n'a pas le droit de râler, au contraire, on est même pas appelé. Moi je suis trop vieux pour être appelé, et on est chez nous à la maison, c'est vrai qu'on a nos enfants qui sont appelés.
Et comment vous organisez alors? Comment vous faites pour aider? Est-ce que tu as des contacts avec ton fils? Est-ce que au niveau nourriture, comment vous approvisionnez toutes ces personnes qui sont sur le front?
Il y a plusieurs questions. D'un point de vue de la nourriture, pour nous, on va dans les super et dans les supermarchés et on achète. Maintenant, il y a commencé à avoir des restrictions un petit peu, où les supermarchés ont dit on ne vend pas plus qu'un certain nombre de litres de lait, qu'un certain nombre de litres d'eau, qu'un certain nombre de par personne, par client. Donc c'est comme ça que nous on s'approvisionne, mais ça va, il n'y a pas de manque pour l'instant, on n'a ressenti aucun manque à ce niveau-là. Nos enfants, ils en profitent pour faire plein de volontariat. C'est-à-dire que j'ai deux enfants qui sont volontaires à Gen David Adom. Il y en a un qui est dans les ambulances et qui se promène en ambulance, là où il y a besoin. Il y en a un autre qui est dans le centre de don du sang, parce qu'il y a énormément, énormément de civils qui viennent donner du sang. Donc, il y a des centaines, des milliers de personnes qui viennent donner du sang. Donc, lui, il est dans le centre là-bas de don du sang. J'ai un autre fils qui a organisé avec ses copains un centre de don pour recevoir des habits, pour recevoir à manger, pour recevoir... Alors, c'est spécifique à notre période, mais une des choses que les militaires demandent, c'est des chargeurs de téléphone sans fil pour pouvoir charger leur téléphone puisqu'ils n'ont pas d'électricité, etc. Donc, ils veulent des chargeurs, donc c'est le genre de choses, ils ramassent ce qu'ils peuvent et ils les envoient au nord, au sud, suivant les besoins. J'ai une autre fille qui allait dans un centre pour préparer des sandwichs. Il y a un centre pas très loin de chez nous, où il y a une centaine de personnes par jour qui sont là, qui ont préparé 15 000, 20 000 sandwichs par jour et qui les envoient aussi aux militaires qui sont positionnés dans le nord, dans le sud, etc. Alors, non, ce qu'il faut comprendre, les militaires, pourquoi ils ont besoin de ces sandwichs, c'est pas parce qu'ils ont rien à manger, ils ont à manger, l'armée leur donne à manger, c'est pas qu'il y a un manque à manger, mais il faut comprendre que le manger qu'on reçoit pendant la guerre, les rations militaires qu'on reçoit pendant la guerre,
beaucoup moins bon que les sandwichs préparés par les civils.
Exactement, c'est des boîtes de conserve, des fruits secs, etc., des choses qui se conservent pendant 10 ans dans des boîtes, donc eux, ils reçoivent là maintenant des sandwichs frais, c'est autre chose. Mais non, j'insiste là-dessus pour pas qu'on puisse comprendre qu'il manque à manger pour les militaires ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas. C'est juste si déjà pour le confort, si on peut se permettre, autant le faire.
Donc, il y a une voilà solidarité qui est unique, non? Tu as déjà connu cette période de solidarité?
Non, c'est pas unique. C'est unique à la situation. C'est-à-dire que malheureusement, on a déjà été dans des situations comme ça, avec des périodes où il y a eu comment est-ce qu'on dit, pas des guerres, mais des opérations militaires, où les gens étaient mobilisés et il y avait la même solidarité. C'est-à-dire comme m'a fait remarquer ma fille, une grande fille qui a une vingtaine d'années, qui m'a dit oui, ils sont là tous ceux qui allaient manifester à Rehov Kaplan à Tel Aviv. Et donc j'ai beaucoup aimé la question, j'en ai profité pour expliquer que ben, effectivement, tous ceux qui ont manifesté au Rehov Kaplan, eh ben, ils sont militaires ou ils sont en train d'aider, comme tous ceux qui sont des juifs ultra-religieux en chapeau noir, ce qu'on appelle les Haredim, eux aussi, eh ben, ils sont là en train d'aider. Ils vont acheter des sandwichs, ils vont acheter à boire, ils vont acheter des trucs, ils vont donner.
Oui, Schneider, ça rejoint le début de notre discussion. Là, vous nous disiez que vous voyez un signe divin. Finalement, vous avez le sentiment que ça est que de ce malheur actuel qui intervient en Israël, finalement, ça, le point positif, en tous les cas, celui qu'on peut retenir au début de cette tragédie, c'est justement cette unité qu'on voit dans le pays maintenant.
Alors. Oui, c'est cette unité, mais comme je viens de dire à Thierry, là, cette unité, on l'a déjà vue quand il y avait d'autres opérations militaires et qu'il y avait d'autres mobilisations des réservistes. On l'a déjà vue. Ce qu'on espère, par contre, c'est que cette unité va rester parce qu'on vient de passer une période très difficile où avec une désunité, justement, de tout le peuple. Où chacun tirait la couverture de son côté de façon méchante, les uns envers les autres, d'irrespect les uns envers les autres, etc. C'était, on sort d'une période très très difficile à l'intérieur d'Israël pour les Israéliens. Et effectivement, de voir cette unité, ça fait chaud au cœur. On espère qu'on va réussir à en retenir quelque chose. Là, on a annoncé ce soir qu'il y avait justement un gouvernement d'union nationale. On espère que ça va être un exemple pour les citoyens et qu'on arrive à rester plus unifiés qu'on a été ces derniers mois. Parce que je pense que c'est aussi un problème.
Uri, tu m'as parlé tout à l'heure des besoins, notamment des gilets pare-balles. Est-ce que tu peux dire un petit mot ou pas par rapport à ça? Tu me disais que...
Je ne vais pas trop en parler parce que je ne suis pas spécialiste.
D'accord, dans le monde, ok.
Mais ce que je t'ai dit surtout tout à l'heure quand on s'est parlé au téléphone, c'est que on a entendu plusieurs personnes qui disaient il nous manque du matériel, ou il nous manque à manger, ou il nous manque des trucs comme ça. Et le porte-parole de l'armée a répondu de façon très juste, c'est qu'il y a tout ce qu'il faut. L'armée, elle a tout ce qu'il faut. La seule chose, c'est que ça prend quelques jours pour arriver de là où c'est des hangars dans lesquels c'est gardé jusqu'à la personne qui en a besoin au bout de la chaîne. Alors effectivement, les deux ou trois premiers jours, eh ben, y a des militaires qui ont râlé. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Aujourd'hui, tout le monde a tout ce qu'il faut. Bon, alors encore une fois, comme j'ai dit, les sandwichs, c'est un plus. Tant mieux pour eux. Si on peut leur apporter des chargeurs de téléphone, eh ben, avec plaisir. Si on peut leur apporter du linge plus chaud que ce qu'on reçoit, avec plaisir. Mais y a tout ce qu'il faut. Il manque rien. Il manque rien. Les militaires ont tout ce qu'il faut, que ce soit du matériel militaire ou du matériel pour vivre au quotidien.
On rappelle que 360 000 mobilisés sur un pays comme Israël, c'est juste considérable. C'est-à-dire, en termes de logistique, on imagine à peine ce que ça peut représenter en l'espace de 3 jours. Arriver à mobiliser autant de gens, c'est un véritable exploit, en fait. Hein. Bon, je dirais qu'Israël pourrait arriver à faire ça, mais...
Il n'y a pas encore les 360 000 qui sont mobilisés, il y en avait 300 000 jusqu'à... On est mercredi, donc jusqu'à lundi soir, si j'ai bonne mémoire, ou mardi, je ne sais plus, il y avait 300 000 mobilisés, ils ont eu l'autorisation d'en mobiliser 60 000 de plus, ils sont en train de les mobiliser. Je ne sais pas s'il y a déjà 360 000, mais on s'y approche et on est pas loin des 360 000 mobilisés. Maintenant, si on veut faire ça par rapport à la population israélienne, il ne faut pas faire ça par rapport aux 10 millions d'Israéliens, parce qu'il y a quand même parmi eux, par exemple, les Arabes israéliens qui ne font pas l'armée. Et donc il faut relativiser par rapport au nombre de familles qui sont susceptibles de faire l'armée. Donc ça fait effectivement un pourcentage beaucoup 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 de monde, et on a tous autour de nous et des copains et de la famille qui est mobilisée
concernée. Oui, Schneider, on vous remercie beaucoup d'être intervenu sur les ondes de Radio Judaïka. On aura, j'espère, l'occasion de vous avoir à nouveau. Malheureusement, ces événements s'inscriront certainement dans la durée. Donc, on n'est qu'au début, un début particulièrement dramatique. Mais voilà, on souhaite tous une issue heureuse à ce conflit et puis le plus rapide possible. Merci beaucoup, en tous les cas, pour votre intervention.
Avec plaisir.
À bientôt.
Merci. Au revoir.